Bonjour, est-ce que vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public?
Je crois que j'ai la parole assez facile.
Avez-vous souvent l'occasion de prendre la parole au sein de votre entreprise?
Ah oui, vous savez, moi, je dois gérer pas mal d'équipes, donc forcément, il y a souvent des réunions commerciales, ce genre de choses. Évidemment, il y a souvent des points avec de nombreuses personnes et la prise de parole est essentielle.
Est-ce que vous êtes à l'aise pour prendre la parole en public?
Pas vraiment, mais je fais beaucoup d'efforts pour m'améliorer.
Prenez-vous souvent la parole dans votre entreprise?
Oui, régulièrement, pour communiquer des informations, pour tenir informé mes collaborateurs. C'est quelque chose que je suis amené à faire très régulièrement, effectivement. Oui. Et pour communiquer avec mes clients, avec les personnes avec qui on travaille, nos partenaires. Donc oui, c'est quelque chose qui arrive extrêmement souvent.
Bonjour, vous écoutez le podcast de l'APM et aujourd'hui nous recevons Cécile Falcon et ensemble on va discuter de la prise de parole en public. Cécile Falcon, elle est diplômée de Normale Sup, de Sciences Po Paris, agrégée de lettres modernes, elle est aussi docteur en études théâtrales, comédienne, metteur en scène et auteur. Elle enseigne au Conservatoire National d'Art Dramatique à Paris et a coaché des acteurs aussi prestigieux que Fanny Ardant ou Gérard Depardieu. Elle intervient auprès de l'APM en tant qu'experte de la prise de parole en public. Bonjour Cécile.
Bonjour Thibault.
Comment est-ce qu'on devient une experte de l'art oratoire ?
Bah écoutez, en ce qui me concerne, je crois que ça vient de l'enfance parce que mes parents étaient comédiens. Donc moi, je suis vraiment née dans l'univers du théâtre, des coulisses, de l'apprentissage du texte, des exercices de diction. Et du coup, je me souviens très bien que quand j'étais à l'école primaire et qu'il fallait apprendre les poésies par cœur, bah mes parents m'aidaient et ils m'apprenaient déjà à respirer, à articuler et à vivre les mots. Du coup, c'est quelque chose pour moi qui est devenu naturel, on va dire. Je ne me suis pas rendu compte qu'il y avait une technique. C'est sur le tard que j'ai compris que d'autres personnes n'avaient pas eu la chance que j'avais eue et que je pouvais aider ces personnes-là.
Oui, alors justement, tout le monde n'est pas au même niveau hein, lorsqu'il s'agit de prendre la parole en public. Est-ce que c'est quelque chose d'inné, la prise de parole orale ?
C'est intéressant, c'est une question qui revient souvent. Non. Oui, il y a des gens qui sont plus timides que d'autres, d'autres plus extravertis. Mais si on est trop sûr de soi, on n'est pas forcément un bon orateur parce qu'on s'écoute parler tout seul. Et quand on est timide, on peut travailler. Moi, mon message essentiel, c'est que parler en public, c'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose de culturel. C'est-à-dire que ça s'apprend, ça se pratique, ça se travaille et il n'y a pas de mystère. Les gens qui ont l'air d'être les plus naturels sont ceux qui ont en fait le plus travaillé. Donc en fait, tout le monde peut avancer dans ce domaine-là.
Et du coup, est-ce que tu peux nous expliquer hein, quels sont les fondamentaux d'une bonne prise de parole en public ? Quelles sont les quelques petites techniques ?
Alors, il y en a beaucoup. La première des choses, c'est la préparation. Avant de parler du langage non verbal, il faut savoir ce qu'on veut dire. Il faut savoir à qui on va le dire, pourquoi on va le dire, pourquoi on s'adresse à ces personnes-là. C'est-à-dire tout de suite personnaliser le message qu'on veut faire. Ne pas faire un exposé ou un monologue, mais vraiment être dans un dialogue, même si on est tout seul à parler. Ça, c'est la première chose. Ensuite, préparer clairement les messages, comment on veut les dire, l'ordre. Ça, c'est la préparation du discours. Une fois que ça, c'est fait, ce qui compte d'abord, c'est de se reconnecter à son corps. Dans nos vies actives, hein, on est sans arrêt par mons et par vos, l'ordinateur, le téléphone, l'iPad, bon. Et on oublie qu'on a des pieds, des jambes, tout un corps. Donc, il faut se reconnecter à ce corps, se reconnecter au sol, avoir conscience du poids du corps dans le sol. Et puis, l'essentiel ensuite, c'est la respiration. Ça, vous ne pouvez pas maîtriser la prise de parole en public sans maîtriser la respiration abdominale. Je ne le dirai jamais assez. Et ça sert pour tout dans la vie, pour la réduction du stress d'une façon générale, pour la réduction de la douleur. C'est à la base de toutes les techniques de sophrologie, de méditation. La respiration abdominale, c'est vraiment la vie, c'est le souffle essentiel pour le discours. Il y a d'ailleurs, juste pour finir sur cette question, une phrase que j'aime beaucoup dire parce qu'elle est très juste, c'est que le stade suprême dans l'art oratoire, c'est quand on arrive à faire en sorte que les autres respirent en même temps que vous. Vous donnez le rythme de votre souffle, c'est le rythme de votre pensée et c'est comme ça que les gens peuvent être convaincus aussi.
Quel conseil tu peux donner à ceux qui angoissent à l'idée de prendre la parole devant un public, hein? Si on a le trac, qu'est-ce qu'on fait? Comment on gère le trac?
Alors d'abord se dire que c'est tout à fait normal d'avoir le trac. C'est absolument naturel. Il y a une anecdote assez fameuse de Sarah Bernhardt, une très grande comédienne du 19e siècle, qui était dans une loge avec une jeune actrice avant d'entrer en scène. Et la jeune actrice lui dit « Oh bah, moi j'ai pas peur, j'ai pas le trac ». Et Sarah Bernhardt répond « Vous inquiétez pas ». Ça viendra avec le talent. Donc ça montre vraiment que le trac est quelque chose d'important. Vous êtes investi. Donc premièrement, l'accepter et se dire que c'est bon signe. Ensuite, pour lutter, pour savoir plutôt gérer ce trac, il faut préparer avant, il faut répéter son discours et il faut le répéter comme si c'était vrai, si possible dans la salle qui sera la même ou une autre salle. Mais en tout cas, il faut le répéter à voix haute et il faut le répéter devant au moins une personne pour faire comme si. Plus vous allez répéter avant, plus le jour J, vous serez détendu, vous aurez vos marques et vous pourrez aussi être spontané. Il ne s'agit pas de répéter machinalement des mots, on les réinvente à l'instant présent.
Cécile, on dit souvent que pour être un bon orateur, il faut savoir poser sa voix. Ça veut dire quoi, poser sa voix exactement?
Ah oui, ça c'est effectivement très important. Poser sa voix, c'est sentir l'endroit où elle résonne le mieux. Voilà. Là, je parle dans un médium qui est assez aigu parce que je suis une femme et j'ai cette voix légère. Je pourrais essayer de parler avec une voix un petit peu plus grave. Il faut bien penser à sentir ce placement de voix quand on parle plus fort parce que sinon, on a tendance à partir dans les aigus. Et si je me mets à répondre comme ça à vos questions, ça va être insupportable, on est d'accord. Donc, le placement de voix, c'est s'habituer à avoir les sensations internes de bonnes vibrations. On ne s'entend pas souvent, donc il faut sentir comment la voix résonne et qu'elle résonne non pas seulement au niveau de la gorge, mais qu'elle résonne aussi dans le masque, autour du nez, qu'on le sente dans la poitrine et presque jusque dans le ventre. Là, la voix est bien placée. C'est dur de travailler ça tout seul.
Et alors, il n'y a pas que la voix, hein, quand on prend la parole en public, il y a aussi le langage du corps, c'est ce qu'on appelle la communication non verbale, c'est ce que tu as expliqué tout à l'heure.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire plus? Tu peux nous expliquer ce que ça implique?
Alors, c'est très important parce que, en fait, la première impression que les gens ont de vous, elle vient de ce que vous dégagez par votre corps, par votre posture, avant même vos idées. Hein. Le non verbal, c'est 80% du message en communication, c'est énorme. En quoi ça consiste? Votre posture. Est-ce que vous tenez droit? Est-ce que vous êtes complètement ramollo dans le dos? Est-ce que vous bougez tout le temps, voilà, sans savoir ce que vous êtes en train de faire avec vos pieds? Ou bien est-ce que vous savez être ancré dans le sol, être stable, projeter de la verticalité, de l'assurance? Ça, c'est vraiment important. Ensuite, qu'est-ce que vous faites avec vos bras? Il faut qu'ils soient vivants, qu'ils s'ouvrent. Il ne s'agit pas non plus d'être complètement excentrique, hein, mais éviter les positions fermées avec les bras croisés, les mains qui se tordent. Faire attention ensuite surtout au regard. Il faut regarder les gens, regarder ceux auxquels on s'adresse et pas le sol ou en haut. Parce que là, on voit qu'on est dans sa mémoire, seul avec soi-même. Et puis, j'ai parlé de la voix, donc bien articuler, soutenir les finales, soutenir la fin des mots. Tout cela est essentiel et donc l'idée en fait quand je fais travailler les dirigeants, c'est avoir conscience quand on est en train de parler devant des gens, rester conscient de ce qu'on est en train de faire avec son corps, avec ses pieds, avec ses mains, avec ses yeux et puis aussi avec ses expressions émotionnelles parce que dans le langage non verbal, ce qui compte c'est la projection d'émotions, donc le sourire aussi. Hein, pour garder le contact avec les gens, pour être chaleureux, projeter cette sympathie qui va aider à convaincre. Ou alors projeter au contraire quelque chose de plus déterminé, de plus ferme. Mais il faut savoir l'exprimer avec son visage.
Alors Cécile, tout à l'heure tu as parlé de l'auditoire, de s'adapter à son auditoire. Comment est-ce qu'on peut adapter son discours à un auditoire tout en conservant eh bien, son authenticité et puis aussi sans travestir ses convictions?
Ah oui, question intéressante. Alors, je reprécise, il ne s'agit pas de trahir ses convictions, en aucune façon. En revanche, tout dépend évidemment de la profession que vous avez. Mais pour convaincre un groupe de personnes en face, il faut savoir ces personnes qui sont en face de moi, qu'est-ce qu'elles savent déjà sur mon sujet, hein ? Quel est leur vocabulaire ? Moi, je travaille aussi avec des ingénieurs, avec des chercheurs. Certains sont très doués pour vulgariser auprès du grand public. Pour d'autres, c'est plus difficile. Comment on adapte son vocabulaire, son vocabulaire professionnel, technique, c'est une première chose. Ensuite, se dire, ces personnes-là, qu'est-ce qui va les intéresser dans mon discours, Qu'est-ce qui va les motiver? Qu'est-ce qui va faire que je vais pouvoir les convaincre? Mais toujours en gardant, vous, votre axe essentiel, vous, vos valeurs à vous, ce que vous voulez argumenter. Mais vraiment en se mettant à leur place. Voilà.
Alors, dans un monde digital où on passe son temps à faire des réunions, eh bien, sans doute comme toi, hein, en visioconférence, est-ce que c'est encore important d'être un bon orateur?
Alors, je dirais que c'est de plus en plus important. Parce que maintenant, c'est ce qu'on voit, tout le monde poste des vidéos, on n'a plus de discours écrit. L'écrit compte de moins en moins, c'est l'oral. Là, on est en audio, il n'y a pas notre vidéo en direct, il y a quand même la voix. La plupart du temps, il y a aussi la vidéo. Donc, on s'exprime à l'oral. On ne fait plus des discours écrits. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on convainc les gens. Non, non, il y a un retour de l'oralité avec tous les jeunes, justement, qui s'expriment sur les réseaux sociaux, via des vidéos. On voit bien que leur prise de parole, on l'a vu aussi dans l'actualité, elles se font à l'oral. Ils n'écrivent plus de livres, ils s'expriment à l'oral. Donc, je trouve qu'il y a, et c'est pour cela qu'on parle de plus en plus de l'art oratoire, il y a des films qui ont été tournés là-dessus, de plus en plus d'ateliers, parce qu'il y a ce besoin qui est ressenti. Et aussi parce que, in fine, savoir parler, c'est savoir convaincre et c'est avoir du pouvoir. Ça, les politiques le savent, ils réussissent plus ou moins bien.
Cécile, un grand merci pour cet échange. Comme tu le sais, l'ambition de l'APM, c'est d'aider les entrepreneurs à se transformer, à créer de la richesse et à contribuer de façon positive au monde qui les entoure. Toi, quel conseil tu peux donner aux entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui?
Le conseil que je peux leur donner, c'est de savoir prendre le temps de préparer ce qu'ils ont à dire. C'est-à-dire que dans l'urgence de leur agenda, qu'ils se gardent un peu de temps pour réfléchir posément à ce qu'ils veulent dire, qu'ils répètent et qu'ensuite ils puissent se sentir totalement authentiques avec leurs valeurs et qu'ils soient heureux du message qu'ils ont pu délivrer. Mais qu'ils sachent se garder ce temps-là de préparation qui est un temps professionnel qui est absolument nécessaire. Et après, ils seront tellement heureux de ça que ça leur donnera plein d'énergie pour d'autres projets.
Cécile, un grand merci.
Merci Thibaut.
Est-ce que vous pensez que l'APM, ça vous aide à vous transformer?
Oui.
Oui, réellement. Il y a un vrai apport.
Elle m'aide à réfléchir, à me transformer, non, mais elle m'aide à me donner de nouveaux points d'ancrage et de nouveaux points de repère. Ça, c'est sûr. Et ça a des impacts sur ma propre posture, sur parfois mes opinions. Ça les modifie, ça les fait évoluer.
Oui, ça m'a ouvert sur la façon de les différentes façons de manager qui sont très personnelles finalement, et le fait d'échanger sur nos pratiques, moi ça m'a aidé à sortir des sentiers battus ou de mes croyances dans lesquelles j'étais un petit peu sclérosée, et voilà, donc j'essaye d'appliquer, mais toujours en cohérence avec ce que je suis moi, ce que je représente.
Ah, c'est sûr, sinon je ne serais pas là.
Absolument, on a vu plein de personnes se transformer grâce à l'APM.
Ben oui, c'est sûr, sinon je ne serais pas ici. On a fait je ne sais pas combien de kilomètres pour venir. Puis on espère apporter des choses pour va faire rayonner alentour de nous.